Bon, alors, j'ai lu le message envoyé ce matin que nous devions continuer normalement, évidemment, mais est-ce qu'on peut véritablement continuer sans dire un petit mot, quand même, sur ce qui nous est arrivé? Les amis, on s'est levé ce matin, après une nuit intéressante et agitée, mais on s'est levé lichora. Lichora, on s'est levé un matin, dans un matin naturel, dans un matin comme tous les autres matins. Alors que si on est suffisamment réveillé et qu'on a les yeux en face des trous, on comprendra qu'on vient de se réveiller après un miracle extraordinaire. On vient de se réveiller beboker shel Ness. Et je pense qu'il est important de se rappeler que notre situation cette nuit. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à réveiller mon fils cette nuit. Quand je l'ai réveillé pour lui dire, allez, viens, il y a la sonnerie, il m'a répondu un truc du style. Voilà. Et en vrai, on était très proche cette nuit d'un autre événement qui s'est passé il y a quelque temps. Pour être exact, il y a 2736 ans. Il y a 2736 ans, bon alors, à une semaine près, puisque à l'époque, ça s'est passé mamash, Belel HaSeder, mais il y a 2736 ans, là-bas, en Perse, qui n'était pas la Perse de l'époque, qui était la Assyrie, Ashour, eh bien, il y a eu aussi une tentative d'éradication du peuple juif. Rappelez-vous, à l'époque, lorsque le roi d'Israël, le roi de Judée, de Yerushalayim, Hizkiyahou, va se coucher, la situation est terrible. Terrible et tendue au possible. Les armées assyriennes ont déjà détruit la majorité des villes juives et font le siège de Jérusalem en promettant la destruction du peuple juif. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous avez été vous coucher hier soir, mais c'était tendu. C'était tendu. Et il y a une armée de 185 000 hommes placés autour des murailles de Jérusalem, tout comme aujourd'hui, hier soir, une armée de 185 000 missiles, je ne sais pas, et quelques, qui sont prêts à être envoyés sur Israël. Et à ce moment-là, eh bien, Hizkiyahou dit à Dieu, il va au Beth Amikdash et il dit à Dieu, écoute, moi, je peux plus rien faire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. À toi de jouer. Et il se lève le lendemain matin, en voyant toute l'armée ennemie décimée. Nous nous sommes levés ce matin en voyant tous les missiles de nos ennemis décimés et on se dit, c'est un matin comme les autres. Et c'est ce que Hizkiyahou s'est dit aussi. C'est un matin comme les autres. Finalement, on n'a pas été détruit. Et donc, Hizkiyahou se dit, c'est tellement un matin comme les autres qu'il n'a même pas pris le temps de s'arrêter et de la Halel et Hachem. De remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il venait de nous faire. Alors, il y a plein de raisons de pourquoi il n'aurait pas dit le Hallel, la Gemara dans la Sefer Sanhedrin à la page 94 va nous expliquer cela. Mais je pense que le plus important, c'est que nous, on ne se réveille pas ce matin, ragil. Nachon, nos soldats extraordinaires, nos forces de sécurité extraordinaires, et Ribono Shel Olam, tous de concert nous ont protégés cette nuit. Et j'avoue que j'ai vu les vidéos des missiles arrêtés juste au-dessus du mont du Temple. Je me suis dit, il y a peut-être un qui va passer entre les mailles du filet et qui va tomber là-bas. Mais je pense qu'il est fondamental de se réveiller un matin comme celui-là en prenant la pleine conscience du miracle que nous vivons, de la Halel et Hachem, de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est que le début, ce n'est que le début, mais en fait, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que là, comme a dit le Rav Yoel, juste après Shabbat, on y est, quoi. On y est. Alors, je suis pas en train de faire des fausses prophéties dans 2 jours et 37 minutes. Non, non, non. Mais on savait bien que ça allait arriver à un moment donné. Voilà. Et on ne peut pas toute la journée parler d'événements qui nous sont évoqués dans la Torah, et quand ils nous arrivent, eh bien, faire l'autruche et faire comme s'il n'arrivait pas. Non. Manishtana alayla azem mikol alelot. Eh bien, je pense que ça sera une question qui n'aura pas son pareil cette année par rapport aux autres années. Et je termine mon introduction et je rentre dans le cours en disant simplement ce que j'ai dit il y a quelques jours, mardi dernier. Mardi dernier, j'ai fait écouter une chanson à un groupe de jeunes filles juives qui étaient devant le monument de la résistance du ghetto de Varsovie à Varsovie. Et je leur ai fait écouter la chanson qui retrace le dernier Seder dans le ghetto de Varsovie, puisque la révolte du ghetto de Varsovie a commencé le soir du Seder. Et il y a là-bas une chanson dans laquelle un enfant pose la question « Manishtana laila azeh, lama laila azeh tellement longue et plus difficile que toutes les autres. La laila n'est autre que l'exil dans la liturgie et dans la tradition juive. » Et il demande, cet enfant, « Mais enfin, pourquoi notre exil est-il si long et plus dur que tous les autres ?» Et il pose la question finale, avant que son père ait le temps de répondre, il pose la question « Mais enfin, papa, j'ai une vraie question. Est-ce que je serai là l'année prochaine pour dire le Manishtana ? Est-ce qu'il y aura encore un enfant juif l'année prochaine pour dire le Manishtana ?» Et évidemment, son père lui répond « Je ne sais pas si toi et moi, on sera là, mais je sais que l'éternité d'Israël ne mentira pas. » Eh bien, ça, c'était il y a quelques jours à Varsovie. Je pense que dans quelques jours, à Jérusalem, lorsque nous dirons « Manishtana alayla azeh », la question sera de savoir pas s'il y aura encore des Juifs l'année prochaine, mais est-ce qu'il y aura encore des ennemis d'Israël l'année prochaine pour remettre en cause la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on répondra à nos enfants « Je ne sais pas s'il y aura encore des ennemis d'Israël l'année prochaine ou si tout le monde aura déjà reconnu Hachem Echad ou Shmo Echad, aval sache qu'un jour viendra « Ve aya bayom ahu ye kol haaretz Hachem Echad ou Shmo Echad. » Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin suite à ce qui nous est arrivé cette nuit. On s'arme de force, de Emouna, et on est prêt à voir les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il faut des fois passer des petits moments un petit peu plus compliqués, eh bien, on aura la force de le faire et on sera prêt à le faire. Voilà, les amis, c'était l'introduction. Et maintenant, rentrons dans la matzah. Voilà, comme ça, c'est fait. Et vous pourrez poser des questions, si vous voulez, après, sur ce que vous voulez. Adrabotai, la matzah. Bon. Alors, que les choses soient claires, on va dire les choses tout de suite. Le cracker est certes une matzah kshera, mais elle n'est absolument pas la matzah d'origine. Quand je parle du cracker, je parle de ce que nous mangeons le soir de Pessah pour la majorité d'entre nous. Cette espèce de machin qui peut rester près de 27 millions d'années dans le placard et ne bougera pas. Les amis, si vous avez des matzot de l'année dernière qui sont encore dans leur paquet, vous pouvez les utiliser à Pessah, il n'y a aucun problème. Elles ne sont pas devenues chametz pendant l'année et elles ne sont pas non plus devenues immangeables. La matzah que nous commercialisons aujourd'hui, l'écrasante majorité des matzot qu'on voit, ce fameux cracker, alors je m'en fous qu'il soit fait à la main, qu'il soit pas fait à la main, c'est pas le débat. Ce cracker-là, il tient autant que possible. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous dit la Torah, dans le livre de Shemot, « Vaïssou b'nei Israël mira meses sukota, que shesh meot elef ragli agevarim levad mita vegam erev rav ala itam, vetsono bakar mikne kaved meod. » ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים מוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמר, וגם צדה לא עשו להם. Nous avons ici la sortie d'Égypte, et vous le savez, lorsque nous sortons d'Égypte, eh bien, nous avons, nous, peuple juif, déjà préparé nos sandwichs. Puisque cela fait au minimum 4 jours, au mieux 2 semaines que nous savons déjà que nous allons sortir d'Égypte, on a eu le temps de préparer nos sacs, nos valises, toutes nos affaires, et vous allez me dire qu'on n'a pas eu le temps de préparer des sandwichs ? C'est pas possible. Donc évidemment que le peuple juif a fait des matzot. Pourquoi elle a fait des matzot? Pas parce que il n'a pas eu le temps de faire du pain, mais parce que Moshe leur a dit de faire des matzot. Et on essaiera de comprendre pourquoi il fallait faire des matzot. Mais le Erev Rav, qui lui n'a pas eu le temps, puisqu'il n'était pas au courant qu'il fallait sortir, et tout d'un coup, Moshe a envoyé un WhatsApp à tout le Erev Rav qui voulait venir, les gars, c'est maintenant qu'on part, eh bien, ils ont pris avec eux leur pâte. Pourquoi leur pâte? Ben parce qu'ils avaient de la pâte. Et pourquoi ils avaient de la pâte? Mais parce que c'était l'heure du lever du soleil, c'est l'heure où on fait le pain. Parce qu'à l'époque, ça n'existe pas d'avoir du pain en rab à la maison. Pourquoi ça n'existe pas d'avoir du pain en rab à la maison? Mais parce que je n'ai pas de congélateur. Et un pain, ou alors une matza de l'époque, si elle traîne pendant plus de quelques heures à l'air libre, elle devient immangeable. Et j'en veux pour preuve ce qui est marqué dans le livre de Yehoshua. Dans le livre de Yehoshua, vous connaissez peut-être cet événement des Givonim. Les Givonim sont un peuple donc qui habite en Eretz Kenan, mais qui a peur du peuple juif, qui ne veut pas se battre contre nous. Et donc, pour ne pas se battre contre nous, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils décident de monter une mise en scène, une pièce de théâtre, faisant croire qu'ils viennent de très très loin, pour dire, voilà, on n'est pas un des peuples de Canaan, donc vous pouvez faire une alliance avec nous, s'il vous plaît, ne nous attaquez pas. Et qu'est-ce qu'ils utilisent pour montrer qu'ils viennent de loin? Mais regardez ce que nous dit le livre de Yehoshua au chapitre 9. « Vayomru elenu zekenenu vechol yoshve arzenu lemor, ou beyetrem tseida ladaret. » Prenez avec vous, donc c'est ce que les anciens de Givon disent aux envoyés qui vont aller chez nous, ils leur disent, prenez des provisions, ou les roues, les kratam, allez vers eux. Et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Regardez, faites une alliance avec nous. Ah non, nous ne sommes pas proches d'ici, nous ne venons pas de la région. Regardez, regardez notre pain. Il était tout chaud et tout bon quand on est sorti de chez nous. Beyam tsetenu lalechet alechem. Ve'ata inei yavesh. Ve'ata ve'aya nekudim. Ve'ele nodot ayayin asher me'elenu mechadashim. Ve'inei itbaka'u. Regardez notre pain, il était chaud, il était bon et maintenant il est tout sec, tout moche. Mais excusez-moi, s'ils avaient pris des matzot comme chez nous, ben, même s'ils marchent pendant des semaines, la matza, elle reste matza. Et vous allez me dire, non, mais il y a marqué lechem. Non, lechem, ça ne veut pas dire c'est du pain chametz. Même la matza, elle s'appelle lechem. Je te rappelle que juste avant de manger la matza au soir du seder, tu vas dire, amotzi lechem mina haaretz. Donc, les amis, c'est quoi ces matzot de l'époque? Eh bien, ce n'est pas du tout la matza que nous, on connaît. La matza que nous, on connaît, qu'on a l'habitude de voir, le carton, le cracker carton, eh bien, ça s'appelle dans la halakha diktim amefuchamim, c'est-à-dire des crackers charbonneux, noirs de charbon, en fait, noirs du feu. Bah oui, dans une bonne matza, c'est une matza qui est un peu cramée. C'est comme ça qu'on a l'habitude. Alors que nous dit le Shulchan Aruch, Noagim shelo lalouche matzat mitzvah, donc la matzah de l'El HaSeder, be'erev Pesach ad achar sheshot, sheuzman akravat korban haPesach. Nous dit le Shulchan Aruch, quand est-ce qu'on va faire la matzah? On va faire la matzah pour la mitzvah du Seder. Quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait la veille de Pesach, après la sixième heure de la journée, c'est-à-dire après Chatzot Hayom. Comme dans ma communauté, où comme chaque année, nous allons faire nos matzot lundi prochain, pas demain, lundi prochain à 1h de l'après-midi. C'est à ce moment-là que la communauté va se réunir et on va faire nos matzot pour lundi soir. Deux secondes, pourquoi on ne peut pas les faire avant? Pour une raison très simple. Alors, la Shulchan Aruch nous dit parce que c'est l'heure de Korban Pessah. C'est vrai, Mais il y a une raison beaucoup plus technique. Si tu fais une matza qui n'est pas un cracker, tu la fais avant, elle devient immangeable. Parce qu'une matza qui a été faite et qui n'a pas été mise au congélateur direct, elle devient dure comme de la pierre. Pourquoi on a inventé les matzot crackers? Parce que la technologie et le fait que les gens ont commencé à se préparer à Pessah des mois à l'avance et que les gens ont développé une peur panique du Hametz, ils se sont dit « Jamais de la vie, je peux faire mes matzot juste avant Pessah de peur que ça devienne Hametz. » Alors, on a inventé un système pour faire des matzot 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, 1 an à l'avance. Sauf que pour qu'elles restent mangeables, eh bien, il fallait que ces matzot soient très fines, dictim à mefouchamim. En d'autres termes, la matza que nos amis Témanim ont continué à faire pendant tout le temps et la matza qu'on peut trouver chez les Sfaradim dans le rayon congélation des supermarchés, eh bien, c'est la matza de l'époque. C'est-à-dire une matza qui n'est pas hametz, mais qui est lafa, qui est molle. Bon, pas aussi molle qu'une lafa normale, bien sûr, parce qu'elle n'est pas hametz, mais qui est molle et qui doit être mangée le plus rapidement possible après avoir été cuisinée. Pour qu'elle garde non seulement sa moelleusité, mais qu'elle soit encore chaude et qu'elle soit pliable. Je vous rappelle que nous allons dire dans le Seder Zecher le Mikdash Keilel lorsqu'on fait Korer. Likror, ce n'est pas mettre un cracker au-dessus, un cracker en dessous, durer fort et faire clic. Ça s'appelle pas Likror. Likror, c'est enroulé. Et donc, comment tu peux m'appeler un truc qui s'appelle Korer? Si tu commences à le prendre dans ta main, ça se casse en 1000 morceaux. Donc évidemment, la matza, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la lafa. Ou alors, à ce qu'on appelle, dans le langage de la Mishnah, à la chala. Matza, chala, même combat. Comment ça, même combat? Regardez ce que nous dit le livre de Bamidbar. וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת גורן כן תרימו אותה מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם לברסה כי נופר דולה חלה לברסה כי נופר דולה חלה מת ענבו. Le fait que la chala nous rattache directement à Akadosh Baruch Hu. Réchit Aristotechem, c'est les prémices de notre capacité à manger et c'est ce qui nous rattache directement à Dieu. Eh bien, il en va de même avec la matza. Regardez ce que nous dit Yehoshua dans le livre de Yehoshua au chapitre 5. Vayachanu bnei Israël bagilgal. ויעשו את הפסח ב-14 יום לחודש בערב בערבות יריחו ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה וישבות המן ממחרת באוכלם מעבור הארץ ולא היה עוד לבני ישראל מן ויאכלו מתבואת הארץ כנען בשנה ההיא. למן, כי הייתי לפן דודיו, cesse au moment où nous rentrons en Israël et nous faisons des matzot. Pourquoi on fait des matzot? Parce que c'est Pessah. En d'autres termes, la première matza qu'on mange en Eretz Israël est la remplaçante directe de la manne qui est là pour nous connecter à Kadosh Baruch Hu. La chala est là pour nous connecter à Dieu, la matza est là pour nous connecter à Dieu. Mais ce n'est pas le seul point commun. La Mishnah dans Maseret Chala, au chapitre 1, Mishnah 1, nous dit Chamisha devarim chayavim bechala. Il y a 5 céréales qui sont, si on en fait du pain, obligés de prélever la challah. C'est quoi ces céréales? Eh bien, on nous dit chitim, seorim, kousmin, shibolet shoal et chiffon. Si je traduis bien, du blé, de l'orge, de l'épeautre, de l'avoine et du seigle. C'est-à-dire les cinq céréales. Très bien. Areel ou chayavim bechala. Ce sont les cinq céréales qui sont obligées de donner de la challah. Très bien. Umitzarfim zeim ze, veosim bechodesh mifna pesach. Ce sont ces céréales-là, et si tu fais un peu de blé, un peu d'or, ben, ça marche quand même, tu dois quand même prélever la challah, bechado. Quand je vais dans la Mishnah, dans le traité de Psachim, cette fois, qui va nous parler de la Matzah, eh bien, comment ça commence? Chamisha dvarim chayavim bepesach vebechamisha dvarim adam yotze bahem yedechovato bepesach chitim, seorim, kousmin, shibolet shoal vechifon. C'est-à-dire que la halakha est la même pour la chala et pour la matza. Les deux sont intimement liés. Mes amis, ça va beaucoup plus loin. Ne peut être une matza que quelque chose qui aurait pu être une challah. Je m'explique. Rak ma sheyachol liot chametz yachol liot matza. Que ce qui peut devenir chametz peut être une matza. Les crackers faits avec de la farine de patate, ça ne peut pas être de la matza. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas devenir chametz. Ainsi donc, nous dit la Gemara, dans le traité de Psachim, à la page 35, Tania devei Rabbi Ishmael, vechem Tana devei Rabbi Eliezer, ben Yaakov, amagra, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. דברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהם ידי חובתו במצה. Les amis, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Que la matza et le chametz sont tellement liés. À Pessah, on n'a pas le droit de manger du chametz. C'est nachon. Mais à Pessah, il faut que ça puisse être chametz et que je l'ai empêché de devenir chametz. Zéasipour. Alors après, nous avons toute la question, évidemment, de ce qu'on appelle la matzah ashira. Vous connaissez la matzah ashira que les Ashkenazim ont pris en grippe et qu'ils ont dit on n'a pas le droit de manger la matzah ashira. Quel est le problème de la matzah ashira? C'est une erreur de prononciation, Rabotai. La matzah ashira n'est pas de la matzah. La matzah ashira, elle est faite avec quoi? Elle est faite avec du jus de fruits. Oh, nous dit le Rambam. Achilat matzah, beleil pesach, mitzvah aseh. Le fait de manger la matzah le soir de Pessah est une mitzvah. Ve'ou divrei Hashem itbarach, ba'erev tochlou matzot. Parce que Dieu nous a dit, ce soir-là, vous devez manger des matzot. Ve'amar lo tochlou alav chametz. Il nous a dit, vous ne mangerez pas de chametz ce soir-là. Shivat yamim tochal alav matzot. Donc pendant 7 jours, on doit manger des matzot. Imken, kol azraim sheisatam mitchametzet. אדם יוצא בהם ידי חובתו, יוצא בהם ידי חובתו במצה. Tout ce qui peut devenir חמץ, on peut en faire de la מצה. ואלו חמשת המינים, בלבד, הם בין לידי חימוץ. Ce n'est que les cinq céréales que nous avons évoquées qui peuvent devenir חמץ. וזולתם כמו אורז ודוכן ודומיהם, ça ne devient pas חמץ. je ne suis pas en train de permettre le riz pour tout le monde. Chacun fait selon son minhag. Mais le Rambam nous dit clairement que le riz, ça ne peut pas devenir chametz. Donc si ça ne peut pas devenir chametz, a priori, il n'y a pas de problème à Pessah. Oui, mais ça ressemble, nanana, nanana. Mais c'est-à-dire qu'on connaît, je ne suis pas là pour enlever les minhagim. Aval, imata zocher. למה פירשנו בפרק שלושה שאכלו כאחד, מברכים וחידו וכו' וכו', התבהר לך, זאת ההלכה והתשובה בהם אחד. להלכה, c'est que la matza et le chametz sont intimement liés. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la matza ashira? Eh bien, les amis, déjà à l'époque des Géonim, on s'est posé cette question, nous dit Rabbi Netronai Gaon, à propos de la question de meiperot. Meiperot, c'est donc du jus de fruits. Lorsqu'on met de la farine des cinq céréales avec du jus de fruits, eh bien, mei perot ein machmitzim. Quand tu mets de la farine avec du jus de fruits, ça ne rend pas chametz, même si tu restes pendant, tu laisses monter la pâte pendant 2 heures. Elle ne monte pas, c'est pas chametz. Donc la matzah ashira qui est faite avec du jus de fruits, en vrai, c'est pas de la matzah. C'est pas chametz du tout, mais c'est pas de la matzah non plus. Mais alors attendez 2 secondes, temps mort. Alors pourquoi les Ashkenazim, ils ont dit on veut pas la manger? Alors, les Ashkenazim, ils ont dit ça parce que, nous dit la Gemara, certes, mei perot, ça ne rend pas chametz. Mais si tu mets de la farine avec du jus de fruits et que tu mets un peu d'eau, ne serait-ce qu'une goutte d'eau dedans, zemachmitz odiotermer. À ce moment-là, ça rend la chose, le processus chimique de chimout, de fermentation, de levage, se fait encore plus vite. Et c'est pour ça que les Ashkenazim, ils ont dit, bah non, on préfère arrêter et interdire complètement la matzah ashira. Pourquoi? Eh bien parce que on a peur que dans ce jus de fruits, il n'y ait pas que du 100% jus de fruits. Qu'il y ait peut-être un peu d'eau qui s'est glissée dedans. Et que donc, ben, on croit que c'est pas chametz, mais en fait, ça va être chametz encore plus. C'est pour ça qu'ils ont interdit la matzah ashira. Mais en vrai, la matzah ashira n'est pas de la matzah. Vous avez compris? Et donc, mais pourquoi je suis en train de vous faire un cours de halakha sur les matzot? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes que seul quelque chose qui peut devenir chametz peut devenir matzah. Non, non, le jus de fruits, c'est pas 95% d'eau. Quand on parle de jus de fruits, évidemment, on parle pas de ce que tu vas acheter supermarché genre jus de fruits. Ou alors quand c'était avec du concentré de jus de fruit, qui est, on va remettre de l'eau dedans. Non, lorsque tu presses un fruit, son jus ne rend pas chametz. Le fait que chimiquement parlant, il y a des molécules d'eau dans le pressage du jus de fruit, ça on s'en fout. Quand c'est mamache jus de fruit pressé, eh bien ça ne peut pas rendre chametz. Mais si dedans il y a un peu d'eau extérieure, alors ça rend chametz encore plus vite. Donc, pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus? Pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus? Eh bien, pour la simple raison que nous dit le passouk dans le livre de Shemot, et c'est un passouk fondamental. Ushmartem et amatzot. Ki be'etzem ayom azeh hotzeti et tzivotechem eretz mitzrayim, ushmartem et ayom azeh ledorotechem chukat olam. Ushmartem et amatzot. Évidemment, tous nos sages vont faire le lien en disant « Ah tiens, ça ressemble à Ushmartem et à mitzvot. »« Ushmartem matzot, Ushmartem mitzvot. » Seder. Mais qu'est-ce que ça m'intéresse? La matzah doit être shmura. Je ne parle pas maintenant de la matzah shmura qu'on va utiliser le soir du seder. Ce n'est pas de cela dont je parle. La matzah shmura du soir du seder, c'est en fait, c'est un peu de ça que je parle. C'est quoi cette matzah shmura? Cette matzah shmura, c'est pas seulement qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas d'eau. Pas d'eau depuis le moment où on a coupé la brindille, enfin le blé, l'épi de blé, du champ. on a fait en sorte que cette chose qui pouvait devenir Hametz ne l'est pas devenue. Et à quoi cela fait-il référence? Mes amis, le Talmud nous dit dans le traité de Brachot à la page 17, au nom d'un haram qui s'appelait Alexandroni. Nous dit Alexandroni. Alexandroni batar de Matzlei, après sa tfila, Amar achi ribon haolamim. Après sa tfila, il rajoutait un petit truc. Et il disait quoi? Ribono shel olam. Galui veyadua lefanecha sheretzonenu la'asot retzoncha. Tu sais que nous voulons faire ta volonté. Ou mi me'akev se'or shebaisa ve'ashi'abud malchuyot se'ba shemeakev. Yehi ratzon milfanecha shetatzilenu miyadam ve'nashuv la'asot chukei retzonecha belevav shalem. Rabotai, nous dit Alexandroni, qu'est-ce qui rend chametz? Dans la halakha stricto sensu, ce qui rend chametz, c'est assez or chez Baïssa, c'est-à-dire la levure, c'est-à-dire le fait qu'on va laisser aussi reposer. Ça, c'est au niveau technique. Il nous dit Alexandroni Rabotai, non, deux secondes. Au niveau beaucoup plus profond, qu'est-ce qui rend chametz? Mazé assez or chez Baïssa. Zeshi Aboud Malchuyot. L'exil. L'exil nous rend Hametz. Qu'est-ce que ça veut dire que l'exil nous rend Hametz, Rabotai? Être Hametz, Zeleachmitz. En hébreu moderne, on dira que j'ai raté une occasion. Echmatzti. J'ai raté une occasion. Je voulais faire un lancer franc au basket et j'ai raté le panier. Ichmatzti. Il y avait une possibilité d'être toi-même et tu as raté le coach. Zechametz. Tu aurais pu être un Israël qui dévoile Dieu dans le monde et tu as décidé de finalement monter, de devenir Hametz, c'est-à-dire de devenir un peu comme eux. On parle de Shiabud Malchuyot, c'est-à-dire qu'on parle de l'exil, on parle du moment où on est chez les Goïm. Rappelez-vous qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, 4/5 du peuple sont devenus Hametz. Ils ont décidé de rester en Égypte. Être matza, ça veut dire être toi-même. Ça veut dire être Am Israël qui doit porter le dévoilement divin dans le monde. C'est ça, être matza. Être chametz, c'est être comme eux. Il y a plusieurs façons d'être chametz. Tu peux être chametz parce que tu es complètement assimilé et il ne reste plus aucun zecher de toi en tant qu'Am Israël. Tu es déjà marié avec une Goya et tu as déjà complètement lâché le truc. Comme on peut voir dans d'innombrables séries télévisées américaines où il y a forcément un juif qui fait partie des héros de la série et il y a forcément un épisode où ça va être Pessah. Et où il fait genre, il sort le pain de sa maison, mais en fait, il fait pas du tout Pessah. Parce que tu es complètement dedans, ça fait partie du folklore. Comme une fois, j'ai pu voir dans un avion de la American Airlines, lorsque je suis parti aux United States of America, et que dans le catalogue de l'avion, eh bien, on pouvait acheter là-bas, attention, tenez-vous bien, c'était la collection automne-hiver de l'avion, et on pouvait acheter là-bas un petit, c'était, je crois que c'était de 10 ou 12 cm, un Christmuka tree, un sapin de Noël Nuka, c'est-à-dire un petit sapin avec une mini Hanoukia au-dessus. Alors, plus chametz que ça, tu meurs. On peut être chametz de plein de façons. Business is business, hein, exactement. Mais le business, moi j'ai la chance, et je remercie Ribono Shel Olam, je remercie vous, de me permettre que mon business, ce soit de faire des cours de Torah et de transmettre, d'essayer de transmettre la Torah au peuple juif. Donc des fois aussi du peuple juif qui est the United States of America. Alors voilà, tu me précèdes, la question est magnifique. Y aurait-il un niveau de chametz acceptable lorsqu'on est en exil? Tu me précèdes, mon ami. Mais la question est la suivante. Il y a plusieurs façons d'être chametz, j'ai dit tout à l'heure. Mais une des façons d'être chametz, et je suis désolé de le dire de manière aussi crue, mais c'est un chametz qui est encore rattrapable, hein, bien sûr. Mais une des façons d'être chametz, c'est d'être en exil. C'est-à-dire d'être bagola. Barour que c'est une façon d'être chametz. Alors c'est pas un chametz qui est récupérable parce que tu peux devenir matzah facilement. Mais bien sûr que t'es pas à ta place. C'est pas shoot. Alors après on ne juge pas. Les gens des fois ils ne peuvent pas. Il y a pas de problème. Et on prie pour que Bezrat Hashem tout le monde puisse venir. Mais on ne peut pas honnêtement venir dire que faire Pessah à Paris, c'est l'idéal du judaïsme. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est tout simplement pas. Alors, quand on n'a pas le choix, eh bien, on fait tout ce qu'on peut, mais Bezrat Hashem. Et un jour viendra, avec l'aide de Dieu, vous pourrez revenir en Israël tous. Ce que je suis en train de dire, c'est que la chose qui me rend chametz, c'est l'exil. La Géoula, ça me rend matzah. Et plus je prends fait et cause et acte de cette Géoula, et plus je deviens matzah. Ainsi, Rashi nous dira, lui qui habite en France, « Seor Sheba Issa, Zeh Yetzerara ». Parce que Rashi te dit, mais moi j'habite en France. Ce qui me rend chametz, c'est mon Yetzerara. Je peux pas dire ce qui me rend chametz, c'est l'égoïm. Parce que j'ai pas le choix, j'y suis et il n'y a pas le choix. Ah, et les Israéliens qui passent Pessah dans un hôtel en roule, super la folie, est-ce que ce n'est pas être un petit peu chametz? Alors, je ferai la différence entre des choses qui... Enfin, je vais vous dire deux choses, une qui est vraie et une qui n'est pas vraiment vraie. La chose qui n'est pas vraiment vraie, c'est de vous dire que il y a des gens qui font ça pour la Parnassa. Comme par exemple quand ils sont... ils sont invités à être dirigeants d'un CEDER et d'un Pessah avec 300 personnes et ils vont se faire un petit pactole. Donc, bon, pour la Parnassa, on peut trouver des excuses. Mais de toute façon, la vraie question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si géographiquement je me trouve en France ou en Israël au moment T. Bien sûr que l'idéal, c'est d'être à Jérusalem, c'est même pas un débat. Mais la question n'est pas de savoir si là, j'ai décidé de prendre mes billets d'avion et de venir faire Pessah à Metz chez mes parents. C'est pas ça la question. La question, elle est, est-ce que ma réalité de vie, est-ce que je vis en Eretz Israël ou je vis en Chutzal Haaretz? Zachela! Vous savez, la question qu'on pose sur le deuxième jour de Yom Tov, est-ce qu'un Israélien qui habite là-bas, qui va faire Pessah en Choul, il doit faire deux jours de Yom Tov? La question de, oui, il doit faire deux jours, c'est parce que Maratayn, c'est l'écrasant, c'est la raison principale. Et lorsque le Chacham Tzvi Ashkenazi te dit un choulnik, c'est-à-dire un mec de France qui vient faire Pessah en Israël, il fait 15 jours. Mais l'Halakha nous dit il fait 2 jours. Pourquoi? Parce que sa réalité, elle est en Chutz Laaretz. Donc si ta réalité, elle est en Eretz Israël, j'ai envie de te dire que c'est moins grave que tu as fait ton Pessah en choul. Bezrat Hashem, un jour, toute ta famille, elle le fera en Israël. Mais la question, elle n'est pas ponctuelle. Par exemple, il n'y a, je pense, pas de, de personnage qui est plus Eretz israélien que le Rav Shmuel Eliyahu, qui devait rentrer hier soir en Eretz Israël, qui a été bloqué. Il est à Paris. L'Erteda, je ne sais pas comment ça va se passer avec l'aéroport, est-ce qu'il va rouvrir cette semaine ou pas. Mais imaginez-vous le Rav Shmuel Eliyahu, le grand rabbin de Tzfat, qui serait, Khalila, bloqué en France pour Pessah. Ben, il ferait un céder de folie furieuse. Et il serait complètement Eretz Israël à Paris. Parce que toute sa réalité, c'est la réalité d'Eretz Israël. Après, au niveau de la halakha, il n'y a pas deux jours, pas certainement. Mais ce n'est pas la question. Donc en réalité, qu'est-ce qui est Matzah ? C'est ce qui aurait pu être Hametz. Ça y est, Ben-Gurion est réouvert. Et voilà, Kol HaKavod. Kol HaKavod. De toute façon, David Ben-Gurion était quelqu'un qui n'aimait pas rester fermé, quoi qu'il arrive. Donc les amis, c'est de cela dont on est en train de parler. La Matzah, c'est ce qui aurait pu être Hametz, et toi, tu as fait en sorte que ça soit Matzah. Ushmartem et Hametzot. C'est de cela dont on parle. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Et c'est pour ça que le, j'ai envie de dire le Icar, c'est qu'à Pessah, tu deviens responsable. C'est-à-dire qu'à Pessah, c'est à toi qu'on a demandé d'être celui qui va permettre que la fête se passe. Non seulement Korban Pessah, mais également la Matzah. Les deux éléments principaux de la fête, on te dit, c'est à toi de le faire. Tu peux pas attendre que quelqu'un le fasse à l'extérieur. Ushmartem et Hametzot, ça doit venir de toi. Parce que la décision de sortir d'exil, eh bien, c'est la décision qui vient de nous. Akadosh Baruch Hu met en place les conditions pour que tu puisses sortir d'exil. Et après, c'est toi qui choisis est-ce que tu sors d'exil ou pas. Et pourtant, dans l'année, nous avons 51 semaines de Hametz et une seule semaine de Matzah. Mais Barour! Parce que une fois, d'ailleurs, dans l'année, on n'a pas 51 semaines de Hametz et une seule de Matzah. On a une de Matzah et 51 de Hametz. Oui, parce que tout dépend de quand est-ce que tu commences le calendrier. Tu commences le calendrier en Nissan. Donc, tu commences avec ta Matzah. Et une fois que tu es sorti d'exil, que tu as mangé ta Matzah, alors, tu peux élever le Hametz à quelque chose de positif. Parce que des nations, tout n'est pas à jeter. Il y a plein de choses très positives qu'on a appris en galoute. Et donc, tu vas pouvoir les élever une fois que tu as commencé ton année avec ta Matzah. Et au niveau de la Torah, on verra qu'après Pessah, et après Sfirat HaOmer, où tu t'es nettoyé de toutes les saletés de l'exil, tu arrives à Shavuot et tu amènes Korban Hametz au Beth Amikdash. Donc les amis, c'est de cela dont on parle. Pessah, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu t'a mis en place les conditions pour pouvoir sortir d'exil. À toi de décider est-ce que tu es Machmitz ou pas. À toi de décider est-ce que tu sors d'exil ou pas. À toi de décider, est-ce que tu prends tes petits pieds et tu vas avec Moshe ou tu restes dans ta petite vie et dans le petit train-train en Égypte. La question aujourd'hui, c'est, Akadosh Baruch Hu a mis tout en place pour que la Géoula se mette, soit là, elle est là depuis 75 ans. Et toi et moi, la question qu'on doit se poser au quotidien, c'est comment est-ce que je vais devenir Matzah ? Au-delà de manger de la Matzah. Comment est-ce que je vais devenir Matzah ? Je vais devenir Matzah en montrant, que ce soit parce que j'habite en Israël ou alors parce que pour l'instant, je n'habite pas encore en Israël, en montrant combien je suis rattaché à ce qui se passe en Eretz Israël. Comme dit le Rav Kook dans le livre de Horot, « Echad anim tzaba ve'echad ametzape lirota » Tant celui qui est déjà en Israël que celui qui espère pouvoir y arriver. Les amis, je voudrais ici rappeler les tovas des jeunes filles. J'étais avec elle la semaine dernière en Pologne. Et c'était l'école au Tsar HaTorah de Créteil. Je vais vous dire de la manière la plus franche possible. J'ai toujours pensé qu'il y avait des écoles juives en France qui étaient plus sionistes et des écoles juives en France qui étaient moins sionistes. D'abord, j'ai envie de dire que cette année, certaines de ces écoles ont montré que leur sionisme était finalement à deux vitesses. Et certains ont décidé de ne pas venir au bac bleu-blanc, privant ainsi leurs élèves d'une opportunité extraordinaire. Et je pense que c'est un vrai problème. Mais les écoles religieuses qui se revendiquent comme telles, qu'on pouvait avoir comme crainte qu'elles ne sont pas extrêmement sionistes parce que vêtues d'un chapeau, eh bien, ont toutes répondu présentes dans leur solidarité avec Israël. Et j'ai envie de vous dire que j'étais avec donc ces jeunes filles d'Otsar HaTorah de Créteil. Je n'ai jamais vu, et je fais des groupes depuis près de 12 ans, je pense avoir travaillé avec pratiquement toutes les écoles qui vont en Pologne, je n'ai jamais vu autant de drapeaux d'Israël sortis pendant tout notre périple en Pologne. Je crois que sur 40, il devait y avoir à peu près 40 drapeaux qui enveloppaient les jeunes filles dans les rues de Varsovie, dans les allées du camp de Auschwitz, dans la forêt des enfants de Zbilitovska Gora. Elles ne lâchaient pas leur drapeau d'Israël, leurs professeurs non plus. Et ça ne les empêchait pas d'être tzadikot, etznuot, et Kdoshot. Et je pense que j'ai été extrêmement ému de voir que ce que dit le Rav Kook, Echad Anim Tzaba, c'était moi, Ve'echad Ametzape Lirota, c'était elle, et on était ensemble dans ce processus de matzaïsation de la fête de Pessah. Hamatza, c'est ce qui peut devenir Hametz. Le Chidouche, c'est que toi, tu as fait en sorte que ça reste de la matza pour qu'après Pessah, tu l'élèves en tant que juif, en tant qu'Israël, au niveau de Hametz, qui s'appellera Yeshurun, et la guerre que nous sommes en train de mener, et ce qui s'est passé cette nuit, est le début de la dernière étape pour devenir Yeshurun, Shevayi Bi-Yeshurun Melech Beitasef Rashe Am Yachad Shivte Israël. Rabotai, nous sommes dans cette réalité-là d'être en passe. Que vaya bayom ahu, yé Hashem echad, ou shemo echad. Chag Sameach, lekulam.
Chag Sameach, Rav, toda rabba. Rav, on a parlé un petit peu de halakha. Moi, j'ai une première question. Un peu comme à l'époque du corona, on nous avait demandé de faire un peu des réserves de nourriture, etc. Il y a pas mal d'élèves qui demandent qu'ils peuvent garder un peu de farine chez eux, au cas où il se passerait des choses plus compliquées. Qu'est-ce que vous recommandez?
Alors, tout d'abord, je vais dire quelque chose qui n'est pas du tout populaire. La farine n'est pas Hametz.
Non, c'est la levure qui est Hametz.
La levure, c'est interdit. Mais la farine, ce n'est pas Hametz. Je vous rappelle que pour faire de la matza, il faut de la farine et de l'eau. Donc, garder de la farine chez soi, ce n'est pas Hametz. C'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que la Mechirat Hametz, ça marche halakhiquement parlant? Ça marche, halakhiquement parlant. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de faire des provisions et d'acheter des pâtes et d'acheter des trucs et machin et de les garder, alors, c'est permis. C'est permis de vendre son hametz. Même si moi, je ne le fais pas d'habitude, je peux tout à fait comprendre que cette année, il y a des gens qui veulent. Le blé, il faut s'en débarrasser. Tu t'en veux ? Débarrasse-toi de ton blé si tu veux, mais le blé non plus, il n'est pas hametz. Tout le truc, c'est de dire, si jamais il est en contact avec de l'eau, alors le processus de fermentation, il peut commencer. Mais le blé en soi, il n'est pas hametz. Je te rappelle que pour faire de la matza, il faut du blé. Ça a l'air, donc non, le blé n'est pas hametz, la farine n'est pas hametz non. Encore une fois, est-ce qu'il faut le vendre? Concrètement, non. mais les gens le vendent parce qu'ils se disent de peur que ça va tomber de l'eau dedans, machin, il y a de l'humidité, de peur que. Nous, il y a tellement de choses qu'on fait de peur que. Ok, mais ça, moutarde. Moutarde de vendre la réserve de pâtes.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, pas de questions. Alors, est-ce que vous avez un dernier message pour vos élèves avant?
Excusez-moi, la fête de j'ai une Pessah question.
Ah, d'accord. Excusez-moi quoi?
Une question.
Ah.
Une question. Une question.
Oui, oui.
Pourquoi Al-Tishkachecha, cette image de Jérusalem derrière votre dos, pourquoi elle est à l'envers?
Pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers?
Oui, nous, on le dit.
C'est la caméra qui retourne, c'est la caméra qui retourne, c'est pas le rave.
Ah, bravo, la caméra qui retourne. Ah, bah, bravo, la caméra. Quoi, la cabote, la caméra.
Voilà, ça va, il y avait une autre question.
En plus, non seulement, je te montre, non, mes caméras ne bougent pas. Non seulement il y a marqué Imeshkarer, Yerushalayim, Tishkar, et Médine,
mais en plus,
c'est une œuvre d'art brodée par ma maman.
Mais nous, on la voit à l'envers, l'écriture.
Pourquoi la voit-on à l'envers?
Bah, c'est un vrai problème.
C'est la caméra.
Je ne sais pas, je ne saurais te dire.
Arabe, il y a une question dans le chat.
J'ai une question à la
fin. Pour manger du Hametz vendu à Pessah.
C'est un travail depuis que tu es devant ce machin.
En cas de piquar nefesh, est-ce qu'on peut manger du Hametz vendu à Pessah? La question, c'est pas. Enfin, je comprends pas la question. En cas de piquar nefesh, on mange du cochon. Donc pourquoi est-ce qu'on mangerait pas de Hametz vendu à Pessah si c'est du piquar nefesh? Je pense pas qu'on soit dans un état de piquar nefesh, qu'il n'y ait plus à manger ou quoi que ce soit. D'autant plus que tu as une semaine, tu peux aussi faire des provisions de choses kasher le Pessah. Donc il n'y a pas de problème que pendant une semaine, tu manges des choses kasher le Pessah. Les supermarchés sont pleins de choses kasher le Pessah. Donc, je ne vois pas pourquoi on rentrerait dans une situation de piquar nefesh à manger des pâtes. Mais si c'est une situation de piquar nefesh, et ben comme tout piquar nefesh, tu manges ce que tu as à manger. Mais je ne vois pas comment on y arriverait en une semaine.
J'ai une question.
Moi, j'ai une question, mais ce n'est pas une...
Excusez-moi, je peux poser ma question?
Oui, bah, allez-y.
Allez-y, Golda, allez-y.
Merci. Alors, regardez, on va vendre un congélateur automatiquement avec tous les Hametz dedans. J'ai acheté des chalotes chez Ocherad déjà congelées, juste pressées, juste à mettre au four. Est-ce qu'on doit les jeter, les vendre? Ben voilà, c'est tout. Ou les jeter ou les vendre?
Les amis, la vente du Hametz, si des on admet qu'elle marche, alors elle marche.
Pour tout.
Ben, si tu vends ton Hametz, il n'est pas à toi. Tu n'as pas le droit de posséder du Hametz chez toi. Ok? Mais s'il n'est pas à toi, il n'est pas à toi. La vente du Hametz, c'est quand je vends le Hametz à un goy. Le goy, lui, il n'est pas obligé de faire Pessah.
Okay. Bon, moi j'ai une question qui. Je peux parler?
Mais je vous en prie.
On m'entend? D'accord. Et c'est une question qui n'est pas une question, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. On avait un rav Chabadnik et il achetait plein de Hametz avant Pessah parce qu'il avait peur que ce qu'il achète après soit du Hametz chez Avar Alav à Pessah. C'est-à-dire qu'il avait peur que c'était dans des Tnae Irsoun qui n'étaient pas vendus ou des trucs comme ça. Alors, il faisait des provisions de Hametz avant Pessah.
Comment est-ce qu'on peut être plus à l'envers que mon tableau derrière moi que ça? C'est-à-dire que non seulement tu ne fais pas confiance au grand rabbinat d'Israël, donc ça, c'est déjà un problème en soi, et en plus, tu es en train de faire les choses à l'envers. La vente du Hametz est bédiavad, c'est certainement pas l'idéal de la Torah. Et toi, tu as décidé de vendre énormément de Hametz parce que tu fais pas confiance au grand rabbin d'Israël qui vend le Hametz des grandes entreprises. C'est un vrai problème général de « je crois que je suis meilleur que tout le monde ». C'est un problème.
Il y a une dernière question de Meira. Meira, votre micro, il est éteint.
Vous m'entendez, Arab?
Oui,
mais j'ai une minute.
Le soir de Pessah, le Seder, on doit manger à un moment donné en 17 minutes la matzah, ou combien de minutes, je ne me souviens pas. Mais est-ce que c'est vraiment important? C'est une halakha?
C'est une halakha, il faut manger mitor achilat bras, mais il ne faut pas non plus s'étouffer.
Oui, mais c'est vraiment important parce que moi, je ne suis pas capable. Alors, c'est pour ça que je demande. Chaque année, j'ai le même problème.
Tout ira bien. Vous mangez ce que vous pouvez manger, le temps que vous pouvez le faire. Akhilat Pras, ce n'est pas 17 minutes, hein, c'est 2 minutes à peu près, 2 minutes 30.
Ça me semble infini. Bon.
Mangez comme vous pouvez, ce que vous pouvez, à la vitesse que vous pouvez. Yebesed.
Todaraba.
Arafizon, Todaraba, Shavu Atov.